Bonjour à tous. Monsieur Shaul Oren est un merveilleux jeune nonagénaire. Du haut de ses 92 ans, il se désole qu'avec le corona, il ne peut plus guider des jeunes venus du monde entier dans leur visite à Yad Vashem. Obtenir un rendez-vous avec lui n'a pas été simple. Parce que vous comprenez, nous dit-il, en ce moment je suis très occupé. Ce matin, il m'attend dans un splendide jardin de Jérusalem, sous la douce lumière du printemps, les roses embaument. Et pourtant, il y a ici toute la nuit et le brouillard. L'enfer de la barbarie des hommes, les hurlements et l'odeur de la mort. Sur le bras de cet homme, les chiffres du tatouage, étrangement petits d'ailleurs, rappellent qu'il a traversé Auschwitz. Les expérimentations terrifiantes d'un collaborateur du cinéaste Joseph Mengele, dans le camp de Sachsenhausen. La marche de la mort pendant 12 jours sans nourriture. Aujourd'hui en Israël, depuis plus de 50 ans, arrière-grand-père et la kippa sur la tête, il nous transmet à nous, la nouvelle génération, son témoignage et un message d'espoir, plein d'une foi et d'une force incroyable. Monsieur Shaul Oren, Shalom Uvracha, Boker Tov. Vous êtes donc né en Pologne, à Jaworzno, non loin de Katowice, dans une belle famille de 5 enfants, d'origine chassidique de la chassidoute de Kelts. Votre père est même d'ailleurs professeur de Talmud. En septembre 39, la guerre éclate. L'Allemagne nazie conquiert la Pologne en un mois. Est-ce que les Juifs s'attendaient à ce qui allait arriver, à l'horreur qui les menaçait?
Non. Non. Pour une première raison, c'est que la génération de mes parents, qui ont connu les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, avait une très bonne impression de ces Allemands. Parce qu'ils étaient cultivés, ils n'étaient pas antisémites spécialement.
Vous m'aviez raconté, juste en 1939, le premier Shabbat de la guerre.
Oui.
Vous m'aviez parlé justement à Wolbrunn, ce chant-là qui était chanté par les Juifs dans la synagogue.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On a fui Jaworzno, parce que Jaworzno était trop près de la frontière allemande. Et on est arrivé, veille de Shabbat, à la ville de Wolbrunn. Wolbrunn, il y avait les Juifs, il y a des gosses jouaient encore dans les rues, plein de Juifs à Wolbrunn. On nous a invités pour le Shabbat. On a été dans cette synagogue, il y avait un vieux rabbin qui était assis au bout d'une table et des jeunes bahourim qui chantaient un chant et on nous a expliqué que ces chants exprimaient la situation des Juifs qui se trouvaient sur le bateau qui sombrait. Ils disaient que c'est impossible, parce que c'est un bateau moderne qui vient de sortir. Tout le monde était très fier, les Polonais, de ce bateau qui était sur le Baltique. Et puis, il a sombré parce qu'il a heurté un morceau de glace, une pierre de glace. C'est incroyable, mais... ils n'y croyaient pas, c'est pas possible, c'est un bateau si fort, si moyen. Il a été inauguré il n'y avait pas longtemps. Et pourtant, c'est ce qui s'est arrivé. Alors, des jeunes gens, ils ont inventé une chanson qui décrit un peu la situation de ces gens qui se trouvaient sur ce bateau.
Donc vous vous dites, alors, ce chant-là, il représente l'illusion des Juifs polonais à la
Voilà, nous on l'a pris comme symbole de notre situation. Alors, je vais vous le chanter.
Et donc, les Juifs sont à la veille du désastre. Personne n'ose s'imaginer qu'il y a une telle catastrophe qui arrive.
On vit dans une grande illusion. On ne peut pas imaginer que ça arrive.
Alors maintenant, la nasse, elle commence à se resserrer. Vous arrivez au ghetto de Sosowitz.
Oui.
Et là-bas commencent les travaux forcés, les actions, la poursuite.
Le ghetto d'abord. Avant ça, ils avaient envoyé des jeunes gens, des jeunes filles dans des camps de travaux forcés en Allemagne. Mais le reste était dans le ghetto. C'était Monique Mérine qui dirigeait le ghetto. Un jour, je l'ai vu assis comme ça sur un escalier dans le ghetto. Il disait, faites ce que moi je vous dis de faire. Si je vous dis de vous cacher dans le bunker, cachez-vous dans le bunker. Si je vous dis de promener librement, vous pouvez être tranquille. Moi, je suis en rapport avec eux, je sais exactement ce qui va vous arriver. Bon. Mais c'était pas vrai qu'ils nous disaient d'aller dans le bunker. Enfin,
justement, vous êtes échappé en vous cachant dans une cave.
On s'est caché. Mais avant ça, il est arrivé quelque chose. Il y avait aussi une action. Et on nous a envoyé chez Rotignets à Bendin. Chez Rotignets, c'était un orphelinat. Mm-hmm. Un grand bâtiment. Et donc, j'étais là, pris. La nuit arrive et on voit que la porte s'ouvre de temps en temps. C'était, les SS ont été se coucher. Ils ont confié le travail à la milice juive de garde de cette pièce. Et le chef de ces polices juives a donné un ordre. Il a dit « Gouva za gouve, tête pour tête, si un échappe de là, un de vous va prendre sa place. » Bon, alors il devait nous garder. Yehuda Yoel, le petit, il était avec moi dans une grande salle. Il y avait un rabbin, on a prié Mincha là-bas. Et la nuit, la porte était gardée par la milice juive. Et Yehuda Yoel, le petit, il avait 4 ans et demi. Je voulais l'endormir, j'ai enlevé la veste que j'avais, qui se couche et qui s'endorme. Il m'a dit une seule chose. Moi, je suis rentré chez ma mère. Ich will heimgehen zu der Mama. En yiddish. Vous comprenez un peu l'yiddish?
Un tout petit peu.
Un peu. Ich will heimgehen zu der Mama. Ich will heimgehen. Alors, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Et la nuit, quand la porte s'ouvrait, à un moment, j'ai pris le courage à deux mains. Je me suis sauvé dehors avec la famille qui était appelée à sortir. Je vois un escalier, je monte l'escalier. En haut, au Boedem, il y a des gens qui sont assis dans un coin. Je m'assois avec eux. Puis je réfléchis, je dis, c'est pas un cachet.
C'est une cachette.
Une cachette. Alors, je me suis levé, je me suis séparé du groupe. Et j'ai cherché, j'ai trouvé un Boedem. Et sur le Boedem, il y avait possibilité de se cacher. Il fallait que quelqu'un m'aide à grimper là-dessus. Et j'étais avec mon petit frère. Et ce qui est arrivé, il y avait une femme dans les environs. Je lui ai demandé, tu peux m'aider à grimper dans ce Boedem et me passer mon petit frère. Et on s'est caché là. La nuit est passée, ils ne nous ont pas
retrouvés. Ils ne nous ont pas retrouvés.
Non. Les SS sont descendus, ils sont partis vers le train avec tous les autres qui étaient
là. Et vous avez échappé à cette action-là?
J'ai échappé et je suis arrivé au ghetto chez ma mère. Et ça, c'était le moment le plus émouvant que j'ai connu dans ma vie. Ma mère qui retrouve les petits, elle a pleuré comme un enfant, je l'ai pris dans les bras. Et je suis persuadé depuis ce jour-là jusqu'à maintenant que la prière de ma mère pour moi, je sors vivant grâce.
Et qui avait protégé le petit frère.
Oui, le petit frère, que je suis en vie, que j'ai survécu. Finalement, quand les déportations ont commencé, alors on s'est caché et mon père était monté sur le toit pour surveiller la situation. Et quand il a vu qu'ils arrivaient, il n'a même pas le temps de prévenir. On est allé dans la cave. On a camouflé l'entrée dans la cave. Bon, c'est là où on a été. L'action a commencé la nuit et ils sont passés de maison en maison. Ils ont cherché où, et ils savaient à peu près où se cacher. Chez nous, ils sont arrivés, on était dans la cave. Ils ont tiré dedans pour nous effrayer. Mm-hmm. Et après, c'était schnell, raus, vite dehors. Ils ont tiré dans la cave pour nous effrayer. Voilà, et on est sortis. On était déjà avec pas mal de gens qui étaient pris, qui étaient sur la place du ghetto.
Qui avait avec vous à ce moment? Il y avait votre papa et plusieurs de vos frères?
Oui, il y avait Yaakov, Moshe David s'appelait, et moi.
Yaakov a tenté de s'enfuir à ce moment-là.
Yaakov a tenté de s'enfuir et il n'est pas venu avec nous. Il s'est caché. On ne sait pas. Est-ce qu'ils nous ont attrapés, ils ont tiré dessus ou... On n'a pas revu.
C'est plus jamais su ce qu'il est devenu.
Jamais su ce qu'il est devenu. Moi et un frère, Moshe David, nous, on a été pris, place de rassemblement, vers le soir, sans nous donner ni à boire, ni à manger, rien du tout. Rien eu de ce jour-là. On nous a amenés vers le train, et le train nous a envoyés à Auschwitz.
Vous avez été envoyés tous ensemble, dans le même convoi?
Moi et mon frère Moshe, oui, on était dans le même train et on arrive. Je vois un ami, le meilleur ami de mon père, Yoshua Waxman, qui avait une boutique sur la place de marché de Yavoujou. Il était avec sa fille. Et on savait qu'on allait mourir, parce qu'il y avait des Sonderkommando, des Juifs, qui travaillaient...
Qui vous l'avaient dit à ce moment-là?
Ils nous ont dit la vérité. On leur a dit, dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont dit, malheureusement, vous allez partir dans la chambre à gaz. Ils ont dit la vérité.
Comment est-ce que vous allez vous en sortir?
Alors voilà, on arrive sur la rampe d'Auschwitz, il y a un officier allemand qui commence à questionner des enfants. Moshe et moi, on arrive chez lui. Il nous pose une question, est-ce que vous avez eu Gelbzurt? Gelbzurt, on n'a pas compris. Mais on avait le chiffon rouge, le Magen David rouge, et le jaune.
Ok.
Il a dit cette couleur-là, la maladie.
Ah, la jaunisse.
Alors on a dit, bien sûr, non. Alors il nous a mis de côté. Qui nous a pris, parce qu'on était parmi les plus jeunes, il n'a pas pris les âgés, c'est le principe était, on voulait faire des essais.
Des expérimentations
sur nous. Il fallait prendre les plus jeunes qui n'avaient pas toutes sortes de maladies.
Donc sur les 3000 personnes du convoi, il n'y a que ces 19 enfants-là qui vont rester vivants.
Oui, oui, oui.
Et vous faites partie des rares enfants qui ont survécu au passage à Auschwitz.
À Auschwitz, oui, parce qu'il nous a envoyés à bout de 7 semaines à Sachsenhausen.
C'est un camp à côté de Berlin.
À côté de Berlin. On a été sauvés, on était dans le bloc 28 de Auschwitz. À côté de nous, on s'est réveillé la nuit, il y avait un bruit. 1, 2, 3, boum! 1, 2, 3, boum! C'était, ils jetaient des cadavres d'une journée d'Auschwitz, qui étaient très nombreux, dans un camion pour être brûlés dans le crématoire. Et on a vu un soldat de garde qui chantait des chants d'amour.
Des
belles chansons des Allemands. Il y avait Beethoven, il y avait Wagner, il y avait toutes sortes de choses. Ils chantaient.
C'est-à-dire, au milieu du transport de cadavres, il y a des gens qui chantent des chansons d'amour.
Oui, mais c'était des Allemands, des gardes, des SS.
Mais dans la...
Ils chantaient des gens, et alors on chargeait à côté des cadavres, c'est-à-dire des déportés qui n'avaient plus la force de continuer la vie, parce qu'ils mouraient de faim. Ils donnaient une assiette avec quelque chose qui ressemblait, était un liquide sur lequel flottaient quelques petits morceaux. Et moi, le premier jour, la première fois qu'ils nous donnaient ça, j'ai dit, c'est peut-être de la viande, pas cachère, je ne mange pas.
Et donc, vous n'avez pas mangé le premier repas d'Auschwitz, alors que vous étiez en train de mourir de faim, alors, vous n'avez rien mangé pendant des jours, vous n'avez pas mangé le premier repas.
Je n'ai pas mangé le premier jour, je ne pouvais rien manger. Je ne voulais pas manger parce que les petits morceaux, c'est peut-être de la viande, pas cachère, je n'y touche pas.
Il n'y avait pas de viande à Auschwitz.
C'est vrai. Et le lendemain, je me suis jeté sur la petite soupe.
Vous n'aviez déjà réellement plus le choix.
Ce n'était pas de la viande. C'était un petit morceau de pommes de terre ou un petit morceau de carottes. C'était tout ça.
Maintenant, à Auschwitz, ils vont vous envoyer à Sachsenhausen.
On était 7 semaines à Auschwitz et on ne savait pas pour quelle raison. Alors, en fait, ils nous ont injecté tous les jours. Produits qu'on ne connaissait pas, on ne pouvait pas identifier. Et on a entendu un jour que les infirmiers qui étaient des prisonniers du camp, ils nous ont dit, ça c'est pour injecter une maladie dans le foie. Et en effet, après, il y avait donc des injections et prises de sang. Injections, prises de sang. Jusqu'au jour où on était deux parmi le groupe, ils nous ont pris. Ils ont détecté sur nous, ce qu'on a su après, la maladie à partir des animaux malades.
Ok, qu'est-ce qu'ils cherchaient ? La jaunisse des animaux.
La jaunisse des animaux, ils voulaient savoir si on arrivait
à combattre.
À injecter la maladie. C'est-à-dire, si on arrivait à injecter la maladie par ce moyen, il y aura un moyen de guérir. Alors un jour, ils m'ont pris dans l'infirmerie, je devais m'asseoir sur une petite table et... J'ai enlevé mes vêtements, la chemise, et le médecin qui était là, un manche de la Wehrmacht, il était docteur Domen, il m'a montré une grosse aiguille, il m'a dit, écoute, tu dois retenir ta respiration pendant que je vais introduire cette aiguille dans ton corps à l'arrière. Je te fais une incision, je vais introduire cette aiguille, tu ne dois pas respirer pendant ça, sinon tu vas mourir.
D'accord.
Bon, j'étais assis, il a fait une taille là, qu'on voit encore. on peut l'avoir, dans la région du foie. Et il m'a introduit cette grosse aiguille. Il a fait ce qu'on appelle en allemand Leberpunktion.
Donc une ponction du foie.
Au final, ce qui va se passer, c'est justement un médecin norvégien qui va vous sauver à la fin de l'histoire.
Voilà. Alors, quand les Russes ont avancé, il est arrivé un jour où les Allemands ont décidé de tuer tous les malades graves. Ils ne voulaient pas que, pour leur propagande, pour la propagande des Allemands contre les Russes, qu'ils découvrent ça, la situation de ces malades graves, qui d'ailleurs, les Allemands ont décidé de les tuer. Sacré, je vous l'ai dit.
Oui.
Nous savions qu'il y avait un médecin norvégien, Sven Oftedal, qui était très estimé par le Lagerarzt, le chef du camp, un médecin. Alors, on a été chez lui, on lui a demandé de le sauver, et c'est ce qu'il a fait. Il l'a sauvé, et donc il est resté vivant. Mais c'était un peu grâce à nous. Moi, j'ai été avec le chef du bloc. On lui a dit, on a été voir ses médecins, SS. Pendant que moi, je brossais ses bottes, le chef du bloc, qui était très gentil, lui a dit, ces enfants, on entend qu'on veut les envoyer à un endroit, ils ont trouvé un nom pour ne pas dire.
On allait les exécuter.
Les chambres à gaz, oui. Alors il a dit, moi je sais pertinemment que le docteur Domaine n'a pas fini ses VNS. Il en a besoin encore, je le sais.
Et ça fait que ce jour-là, vous avez la vie sauve.
Il nous a libérés. Oh, ouais. On avait la vie sauve. Alors c'était le Norvégien. Que nous avons demandé qu'il reçoive le prix à Yad Vashem des Justes Nations. Voilà, il l'a reçu. Il est venu avec sa femme, ils habitaient en Norvège.
Donc maintenant, vous allez être déplacé de Sachsenhausen et vous allez partir pour la marche de la mort.
La marche de la mort. Nous, on était très heureux de quitter le camp parce que dehors, personne ne savait notre histoire. On devait être premier rang, nous, Hirschema, on était premier rang quand ils donnaient le signal. On devait vite se réunir et on continuait la marche. On a fait pendant 12 jours une marche d'ordre de 30 km par jour.
30 km par
sans
jour.
Manger,
sans manger. Sans rien manger.
Ils nous ont donné un petit bout de pain à chacun. Et moi, la première nuit, quelqu'un m'a volé mon pain.
Oui.
Alors, j'avais plus de pain, alors Hirsch m'a donné sa part.
Il a partagé son pain avec vous. C'est un morceau de vie, ce pain.
Un petit morceau de pain. C'est tout ce qu'on a eu pendant toute la marche de 12 jours.
Et ceux qui ne tiennent pas les 30 km par jour?
Alors le SS, il a dit, repose-toi dans la marche du champ, de la route, mets-toi de côté. Et le groupe s'est éloigné, on a entendu un tir.
Un coup de feu.
Parce qu'il ne laissait pas vivant les...
Et là, on est juste à la veille de la libération. Il y a des gens qui sont morts comme ça.
Les Anglais sont entrés à Lübeck le jour où nous, on est entrés.
En même temps que vous?
Le 3 mai 1945.
Oh.
C'est les Anglais qui sont arrivés à Lübeck. Et ils ont libéré en même temps un camp d'officiers français, parmi lesquels il y avait quelques juifs. Un de ceux était un pilote, il s'appelait Jean Israël.
Qui est un ami de Saint-Exupéry.
Un ami de Saint-Exupéry.
Et c'est là que vous rencontrez Jean Israël. Très, très bien.
Alors, Saint-Exupéry parle de Jean Israël. Il a dit, ils étaient en groupe, il a dit, le plus extraordinaire, c'était Jean Israël, pilote de guerre, qui faisait partie du groupe de Saint-Exupéry.
Et donc là, lui, il vous rencontre à la Libération. Quelle est la direction que vous allez prendre?
Et à Lübeck, il nous demande, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on a dit, pas question de retourner en Pologne.
Oui, ça se comprend.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai dit, je vais en Palestine.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?
Parce que mon frère Yaakov,
le grand frère,
quand il était envoyé à Apt, chez des cousins qui étaient des sionistes, ils avaient formé, je crois, le sionisme religieux dans la ville de Opatouf, Apt. Et il avait appris le sionisme là-bas, chez ses cousins.
Et donc il revient avec des chansons, avec des idées, etc.
Bah, menouchade agéa et ça.
Et donc vous êtes.
Donc pour nous, c'était devenu un rêve.
Eretz Zavatra, la voûte vache, la terre miraculeuse.
J'ai dit à Jean Israël, je vais en Palestine, il dit bon, alors, si c'est pour la Palestine, moi je suis français, je vais vous prendre en France. De France, tu pourras par la Méditerranée arriver en Israël.
D'accord, et donc là c'est la première station, vous sortez, vous allez vous réhabiliter, vous allez vous réacclimater en France.
En France.
Vous arrivez a priori à Paris, au Lutetia.
On arrive à Lutetia.
À l'hôtel Lutetia, à Paris. Lutetia.
Alors, Jean Israël, c'était provisoire, mais enfin, il nous a mis là, chez Chattard, et il est d'ailleurs revenu après, quand il a retrouvé sa famille. Il voulait d'abord retrouver sa famille, qui était normal, et après, il est venu nous voir à Moissac. Il nous a amenés à Paris un jour, il nous a montés sur la tour Eiffel. Enfin, on est resté.
Le redépart d'une vie un peu normale. Ah, pendant ce temps-là, oui. Vous êtes à Moissac, dans le camp des Ehi, où il y a les rescapés de la Shoah.
Où il y a des rescapés, exactement. Les rescapés de la Shoah, que Chattard et Bouly se sont occupés. Et Bouly, il y avait. On était dans un ancien moulin qui était sur le Tarn. Alors, à Moissac, on nous a fait apprendre. À nager dans le Tarn. Alors on était capable de nager dans le Tarn. Il y avait un pont qui était encore le pont Napoléon, on l'appelait le temps de Napoléon, qui était au-dessus du Tarn. Mais le moulin où on a habité était au-dessus du Tarn aussi. Alors à Moissac, c'était le paradis pour moi. D'abord, ce qui était le plus important, c'était Manger.
Oh. C'est-à-dire que ce qui vous a quand même terriblement frappé à Auschwitz et à Sachsenhausen, c'est la famine. Cette sensation-là de faim qui taraude sans arrêt, où on n'aura jamais assez à manger.
Ben oui, c'était ça.
Et là, vous retrouvez la nourriture.
Comment ? Il a senti, Chattard, que c'était ça qui était important pour nous.
Ouais.
Et nous a mis dans une pièce pour nous retaper. C'était l'infirmerie. Il y avait une Goya qui était infirmière et elle ne laissait personne entrer quand nous on dormait, elle voulait nous retaper. Une Goya qui travaillait là comme infirmière. Mais moi, ça, c'était vraiment le paradis. D'abord, c'est un climat extraordinaire. On s'est promené à Moissac, il y avait le Tarn et il y avait de belles promenades. Et Moissac, c'était une ville ancienne du Moyen-Âge. Il y avait une église très ancienne qui était très cotée par les chrétiens. Moissac, être en liberté et avec des enfants juifs dont les parents étaient déportés, qui ne sont pas rentrés. On ne voulait pas raconter ce qui est arrivé à leurs parents. Hirschema, on a dit non. Nous, on était trois. Et Léon qui est reparti en Angleterre tout de suite, et Chattard s'est débrouillé par Folly Joint, on a trouvé les parents, on l'a renvoyé vite. Nous, on est resté. Alors, Hirsch, il a retrouvé une sœur en Italie, et moi, j'étais
vous
seul.
Vous étiez tout seul.
J'étais tout seul. Okay. Et jusqu'au jour où on devait partir, on devait quitter Moissac à cause de l'âge.
Donc, maintenant, vous arrivez, vous passez vos diplômes d'ingénieur. Et en 1968,
j'étudie au Conservatoire National de CNAM.
Le CNAM des arts et métiers.
Arts et métiers, je sors ingénieur.
En électricité ?
En électricité, oui. Et j'ai appris les mathématiques aussi. J'ai trouvé des cours de maths.
Et vous poursuivez une carrière brillante qui va, en effet, comme vous l'aviez rêvé, se réaliser ici aussi en Israël. En 1968, vous prenez le bateau, encore à l'époque, et vous arrivez enfin en Eretz Israël. Ici en Israël, vous travaillez à la Tassia Virit, à l'industrie aérienne, vous travaillez chez Elta aussi, et vous vous installez ici, vous construisez votre famille ici en Israël. On a sauté quelque chose d'essentiel parce qu'elle est réellement adorable, on a eu le plaisir de la rencontrer tout à l'heure. Votre femme, Maddy qui...
Ma fille qui est une Tlemcenienne.
Donc on a ici un Polonais qui s'est marié avec une Algérienne. C'est quand même digne d'être noté.
On s'est connus à Paris. À Paris, il y avait une maison, qui aidait des jeunes gens qui commençaient à travailler, qui ne gagnaient pas assez leur vie pour se nourrir. Alors, ils les ont logés au foyer de Neuilly, sur Seine, boulevard de la Sourcée.
Depuis 30 ans, vous êtes ici en Israël.
Je suis en Israël.
Vous êtes maintenant arrière-grand-père. Vous avez eu les trois beaux enfants. des petits-enfants, des arrière-petits-enfants.
Notre fils est rabbin.
Vous avez un fils rave.
À Efrat.
Regardez, moi, je voudrais vous poser une petite question. Quel a été, pendant ces années d'horreur, votre rapport à Dieu? Comment est-ce qu'on arrive à vivre Dieu et la Torah dans l'enfer d'Auschwitz et de
etc. Ouais. Alors, je vais vous répondre. Quand j'étais petit, et au Cheder, après, j'étais Talmud Torah chez mon père, après, j'ai appris une Mishnah, la première Mishnah des Brachot par cœur. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais cette Mishnah, elle m'a accompagné tout le long des camps. Mais matin, Corinne et Shema Barve, Michel, Chakoran, Nechnasim, Nechol, Betou, Matin, Atsof, Ashmoa, Rishon, Diver, Bidez, Hamon, Matrasot, Massive, Rabramni, Mirachel, Modachacha.
Ça, c'est ce qui vous a accompagné pendant toute
la cette Mishnah, c'était la seule chose juive qui m'a tenu. Moi, je l'ai répété sans cesse, par cœur. J'étais sur mon lit à Auschwitz, je répétais ma Mishnah. C'était ça mon seul lien qui était resté avec lui. Avec des juifs. J'ai wow. tenu à répéter ça.
Il y a une autre question que je voudrais vous poser. C'est lors de votre arrivée à Auschwitz, vous allez séparer de votre frère Moshe.
Oui.
Et lorsque vous allez revenir ici en Israël, vous allez le retrouver.
Oui, je vais chercher. Il y avait un machon de Chippus Krovim. Mm-hmm. J'étais à Holland. Je monte à Jérusalem, je cherche mon frère. Alors, et là, je me trouve, moi, signalé, vivant, à Moissac. Mm-hmm. La cartis après, Moshe, mon frère.
Et Moshe était...
Moshe était en Italie, il était par la... Il y avait quelque chose des soldats juifs. Mm-hmm. Il savait un nom.
La brigade juive en Italie.
La brigade juive, oui. La brigade juive, il cherchait des rescapés. Mm-hmm. Il l'a trouvé en Italie.
En Italie. Et d'Italie, il est parti en Israël.
Tout de suite, j'ai retrouvé. On est parti.
Et là-bas, vous vous êtes retrouvé. Après, vous êtes perdu de vue pendant toutes ces années affreuses. Monsieur Shaul Oren, merci infiniment pour votre temps. Nous avons pu, par votre voix, toucher du doigt l'histoire, la grandeur d'un juif qui, devant les cendres fumantes du désastre, ne baisse pas les bras. Malgré la souffrance toujours présente, vous avez su vous reconstruire. Je voudrais vous faire une dernière demande un petit peu spéciale. Le Chazon Ish enseigné et la tradition veut que c'était encore appliqué par le Rav Yaakov Edelstein, de nos jours le grand rabbin de Ramat HaSharon, que dans les cas difficiles, il envoyait la personne et lui disait « Trouve quelqu'un qui a un numéro sur le bras et demande-lui une bracha pour arriver à te sortir de tes difficultés. » Et encore plus particulièrement si cette personne-là elle a une kippa, alors vous avez, vous qui avez traversé la Shoah, une force de bracha hors du commun. Est-ce que vous pourriez nous bénir, nous ici, tous les auditeurs qui nous écoutent et tout le clan Israël, parce que vous êtes quelqu'un réellement admirable.
Ça, je sais que j'ai des miracles. Et je dis que les miracles que j'ai eus avec ma mère, quand j'ai sauvé mon petit frère du Chirotinietz, je l'ai ramené à elle. Bon, c'était provisoire, elle n'a pas survécu. Mais à ce moment-là, elle m'a donné une bénédiction. Et ma vie, elle est liée à sa promesse et sa prière. Et voilà, alors okay. J'y crois.
La plus belle bracha, donc, c'est la bracha des parents. Ce sera notre dernier message aujourd'hui.
Je suis très sensible à la phrase « Ina banim smecha », comment elle s'appelle la prophétesse.
Dvorah. Dvorah Barak.
Dvorah, Ani Em Beisrael.
Donc avec vous, on bénit toutes les mamans du clan Israël et que toutes celles qui ont envie d'être maman, qu'elles puissent le devenir.
Oui, et que nous réussissions à préserver l'État d'Israël des fuites, des départs, qu'on réussit à renforcer l'État juif comme État religieux, juifs et contre les armées, contre ceux qui veulent nous détruire, leur donner la force et ceux qui font du bien, de les soutenir et de leur apporter de bonnes nouvelles et que les jeunes filles qui ont besoin de se marier, qui trouvent un bon zivouk.
Amen, amen, toutes nos brachot à vous et à votre famille. Merci infiniment.